Présence à Millau 106.5.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce Présence Midi. C'est un David Tourchala tout essoufflé qu'on reçoit. Vous courez, bonjour David.
Bonjour, mais vous voyez, je suis à l'heure.
Mais vous... quand même. Et oui, parce que l'actualité est très chargée, vous allez nous le dire. On fera un petit point alors sur la venue du pape. Il vient pas, vous nous le direz tout ça.
Ah ben oui, on voudrait bien vous le dire, mais en tout cas, il vient en France, ah, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr, bon ça c'est certain. Donc les dates sont posées, vous nous en direz un petit peu plus si vous avez des informations. Et puis, mais surtout, eux, ils seront présents à Lourdes, c'est le pèlerinage militaire international.
Ah oui, on attend 14 000 militaires à Lourdes ce week-end.
Allez, juste après, on partira à Tarbes, nous, pour parler d'une belle opération qui s'appelle le Mai du Livre. Nous avons René Truss, qui en est le président, et qui nous parlera, enfin, l'ancien président, le créateur de ce festival. Ce n'est que la 47e édition, donc voilà, c'est un festival qui est bien rodé. Après avoir été pendant quelques années au Haras de Tarbes, eh bien, cette fois-ci, ils seront à la Halle Marcadieu. Voilà, on parlera de cette édition avec du beau monde, d'ailleurs, et on parlera d'ailleurs d'intelligence artificielle. Voilà, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et puis, quelqu'un que vous connaissez bien, sûrement, David, c'est Carla Vergne, qui sera l'invitée de Deux Passages à Lourdes. Oui. Elle était stagiaire chez vous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On garde un bon souvenir, alors. Voilà. Et puis, on va écouter son témoignage.
Son témoignage, voilà. Merci. Alors, bien, écoutez, dans quelques secondes, puisque juste avant, on fait un point sur l'actualité avec nos stagiaires et nos élèves, plutôt à l'école de journalisme de Toulouse.
Une success story locale qui prend de l'ampleur à Montauban. La jeune enseigne Ola rêve désormais d'une finale nationale aux Uber Eats Awards. Le restaurant, créé il y a seulement 2 ans, compte sur les votes du public pour poursuivre son aventure. À Lourdes, retour du dialogue de proximité. Les permanences des élus municipaux reprennent en mairie pour permettre aux habitants d'échanger directement avec leurs représentants. Le théâtre investira bientôt les rues de Figeac. Le festival Lotois a dévoilé la programmation de sa 26e édition avec spectacles en plein air et créations contemporaines au menu de l'été. Un élan de solidarité inédit dans le Tarn-et-Garonne. Une association tente de sauver 3000 poules promises à l'abattoir. Les demandes d'adoption affluent depuis ce week-end. L'émotion était au rendez-vous ce week-end pour l'inauguration du stade Bob Montolio. Un hommage appuyé à une figure importante du sport local. Et puis enfin, en sport, c'est un coup d'arrêt pour le Stade toulousain. Les Rouges et Noirs ont lourdement chuté hier soir à La Rochelle, défaite 38-10, une prestation qui a fortement agacé l'entraîneur Hugo Mola.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Merci à tous ces étudiants de l'école de journalisme de Toulouse, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Ben, c'est un bel exercice que de faire le journal tous les jours, et c'est pas évident à faire. Ben voilà, on les félicite pour leur engagement envers Radio Présence. Vous, David Tourchala, y a aucun problème, vous connaissez l'actualité du sanctuaire par cœur. Alors, on démarre par quoi ? Par le pèlerinage militaire ou alors est-ce qu'on parle de l'avenue du Saint-Père ?
Ah ben écoutez, démarrons par l'avenue du Saint-Père. Parce que c'est la question que l'on nous pose depuis plusieurs jours. Alors, c'est quand que vient le pape à Lourdes ? Eh bien, on ne sait pas répondre. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore au conditionnel. C'était le cas lors de la dernière déclaration de la conférence des évêques de France. En tout cas, on est passé vraiment au présent, au futur, en disant que oui, le pape sera en France du 25 au 28 septembre. Et donc ça, on l'apprend dans le Bolettino, c'est le bulletin d'information de la salle de presse du Vatican. Mais pour autant, eh bien, le programme n'est pas détaillé, et donc la destination, le cap vers Lourdes, est en encore en, avec que trois petits points de suspension, mais évidemment c'est quand même dans les dans tous les esprits. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On attend vraiment avec beaucoup de joie, et puis aussi avec un certain sens de la responsabilité, parce qu'on se dit que lorsque ça va tomber, ben voilà, il nous faudra aussi être à la hauteur de l'organisation. Alors on n'a pas pu s'empêcher de se projeter il y a 18 ans maintenant, quand Benoît XVI est venu en 2008 à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions. C'était en 2008, en 2004 aussi, avec la dernière visite du pape Jean-Paul II, qui lui-même était aussi venu en 83. Enfin voilà, donc ça nous permet de nous replonger aussi un peu dans les archives et voir un peu comment pourrait s'organiser ce déplacement à Lourdes. Mais pour l'instant, on attend.
Vous attendez la date, ça me coupe la voix. Excusez-moi.
Oui, mais on attend évidemment la date et la confirmation de venue, mais en tout cas, on est sûr que c'est dans 129 jours qu'il sera en France, parce que sur le site de l'Assemblée, de la Conférence des évêques de France, pape-france.fr, c'est le nouveau site internet de ce voyage apostolique, et donc il est noté, c'est dans 129 jours, 19h, 53 minutes et 48 secondes.
Vous êtes très précis, effectivement.
Un compte à rebours sur le site que je lis avec vous.
Écoutez, on vous fait confiance, bien sûr, pour nous donner des précisions quand on aura les dates, et puis le programme de ce qu'il va faire à Lourdes. Effectivement, aussi dans les coulisses de l'organisation de ce pèlerinage qui est un peu particulier quand même, celui du Saint-Père.
C'est très beau, ce pèlerinage sera, parce que on a la certitude, il viendra, on ne sait pas quand, mais il viendra, mais en tout cas, certes, Jean-Paul II est venu en 2004 pour le 150e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception. Il est venu en 83 parce qu'il n'avait pas pu venir pour le congrès eucharistique de 81 du fait de l'attentat sur la place Saint-Pierre. On sait que Benoît XVI est venu pour le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes en 2008. Cette fois, il n'y a pas de grande date, c'est simplement un pape, un souverain pontife qui souhaite se rendre à Lourdes pour venir prier la Vierge Marie, se faire pèlerin parmi les pèlerins, et donc ça aura certainement une tonalité toute particulière.
Mais je crois qu'il n'est pas venu, c'est pas la première fois qu'il viendra à Lourdes.
Il est déjà venu, et vous avez raison Philippe, deux fois, d'abord comme à 19 ans, et puis à 29 ans comme jeune prêtre. Donc ça, il s'est confié à Monseigneur Jean-Marc Mica, l'évêque de Tarbes et Lourdes, et au Père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire, lorsqu'ils se sont rencontrés l'année dernière, l'été dernier, fin juin, voilà, pour la première rencontre avec le pape. Donc on sait, il aime Notre-Dame de Lourdes, et il a manifesté en se rendant plusieurs fois à la reproduction de la grotte du Vatican, donc la reproduction de la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican, pour le 31 mai, et puis dernièrement pour le 11 février, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes et la journée mondiale du malade. Donc il y a un attachement qui est réel, et donc voilà, on est maintenant prêt pour le voir en vrai, avec nos yeux.
Et voilà, exactement. Il passera moins incognito que les dernières fois, ça c'est sûr. Allez, des pèlerinages emblématiques à Lourdes, il n'y a pas très longtemps, c'était les Anglais avec Achipiti, c'est très coloré. Et là, celui qui arrive, c'est le pèlerinage militaire international.
Et oui, c'est ce week-end du 22 au 24 mai, c'est la 66e édition de ce pèlerinage militaire international. Pendant 3 jours, plus de 14 000 militaires blessés, des familles, des pèlerins venus d'une quarantaine de nations convergeront vers Lourdes autour d'un même désir de fraternité, de prière et de paix. Eh bien oui, on va encore une fois prier pour la paix avec toutes ces sentinelles de la paix. C'est comme ça que les appelait Saint Jean-Paul II, puisque on l'évoquait jusqu'avant.
Radio Pré. Les sentinelles de la paix, ça se déclenche et tout. Ça peut déclencher l'ordinateur.
Ah ben vous voyez, donc c'est pourquoi il y a vraiment ce besoin de paix. C'est un événement qui est assez unique, ce pèlerinage militaire. On dit qu'il est le deuxième grand rassemblement militaire français après le défilé du 14 juillet. C'est dire toute l'organisation de ce pèlerinage. Alors ce sont évidemment des uniformes, des drapeaux, des cérémonies très impressionnantes. Mais c'est surtout une aventure humaine, spirituelle, hein, parce qu'ici, vraiment, les soldats qui sont parfois issus de pays qui peuvent être opposés sur les terrains géopolitiques, mais qui se retrouvent ici côte à côte, voilà, pour prier ensemble, pour échanger et construire ces liens de paix dont on parlait. Alors, si vous avez envie de venir à Lourdes, parce que ça attire, on vient voir les militaires, ben vous avez raison, venez. Je vous dis les très grandes lignes du programme, et vous retrouvez tout après sur les sites internet. fait, d'abord, dès vendredi, c'est la cérémonie militaire internationale qui ouvrira officiellement le pèlerinage. Ça sera sur l'esplanade du Rosaire, donc vendredi. Samedi, pour ceux qui aiment ça, et Philippe, je sais que vous aimez vous aussi, c'est le Festival international des musiques militaires. Oui. Voilà, ça va vrombir. Toutes les rues de Lourdes. Et puis, il y aura aussi, ce samedi après-midi, le grand challenge international des blessés et valides qui se fera sur la prairie du sanctuaire, qui mettra à l'honneur les militaires blessés au combat ou lors des exercices avec des courses, des défis, des parachutes, etc. Et ça sera sur la prairie du sanctuaire. Et puis dimanche matin, la grande messe internationale du Pays Mi qui va réunir l'ensemble des délégations, cette fois dans la basilique Saint-Pidis. Ça, c'est vraiment les grandes lignes parce qu'il y a beaucoup de propositions. Mais permettez-moi quand même d'attirer l'attention quand même sur l'hospitalité Notre-Dame des Armées. Voilà des personnes, des bénévoles qui accompagnent les pèlerins qui sont fragiles, blessés et leur permettent de vivre pleinement avec tous leurs frères d'armes ce temps de ressourcement, ce temps de pèlerinage à Lourdes. Alors évidemment, si vous avez prévu de venir, renseignez-vous d'abord. Vous savez que forcément la circulation de la ville sera un petit peu impactée avec tout le contexte Vigipirate et puis l'affluence exceptionnelle de l'événement. Mais enfin, il suffit de repérer les parkings. C'est pas très compliqué. Lourdes demeure évidemment accessible et largement ouvert. Mais voilà, il faut prévoir parfois de se garer un parking un petit peu plus loin face au sanctuaire. Mais voilà, si vous avez envie de vivre une journée à Lourdes où on parle toutes les langues du monde, où on est au rythme des chants militaires de 40 pays, et bien voilà, et voir des magnifiques processions et des rencontres vraiment fraternelles, et puis prier pour la paix aussi, ça sera bien utile. Venez à Lourdes ce week-end.
Et puis je crois qu'on peut le dire, c'est le seul endroit au monde où il y a tous ces militaires qui se retrouvent en fraternité.
Oui, je crois qu'on peut le dire, et c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Ah oui. Il faut que ça continue, ça fait déjà quelques décennies, et donc voilà, on perd pas l'espérance ici à Lourdes.
Non, je vois. Un grand merci à vous, David Torchala. Voilà pour l'actualité. Vous nous ferez vivre donc effectivement ce suspense pour savoir quand est-ce que le Saint-Père arrivera donc au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous ferez aussi découvrir les coulisses de l'organisation, parce que quand je dis que vous êtes très pressé, c'est que là, je pense que les réunions vont s'enchaîner pour vous.
Oh ben ça, c'est fort possible, mais en tout cas, on est là pour ça et vraiment pour notre plus grande joie.
Oui, avec le plus grand plaisir. On l'entend dans votre voix. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, David. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver tranquillement la semaine prochaine pour continuer à parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, parce qu'on peut s'en apercevoir. Ah non, la semaine prochaine, c'est férié, c'est lundi de Pentecôte.
C'est bien, vous m'avez donné un peu de vacances.
Je vous sens.
Je ne manquerai pas de revenir.
En tout cas. Oui. Allez, à très bientôt, David. Et puis, nous, je vous entraîne en Tarbes d'ici quelques instants.
Il y a du monde dans ce beau monde, déambulent les brunes. Il y a du monde dans ce beau monde, gesticulent les blondes, les couleurs, une map monde. Des visages qui se confondent, un soleil pour tout le monde, une seule vie pour chacun, les mêmes minutes qui fondent, une seule vie, une seule fin. Il y a du monde dans ce bas monde, des qui dorment dans le froid, des qui comptent les secondes. des chiens. Il y a du monde dans notre monde, il y a une lune vide ou ronde. Le même refrain qui revient, un soleil pour tout le monde, une seule vie pour chacun, les mêmes minutes qui fondent, une seule vie, une seule fin, un soleil pour tout le monde, une seule vie pour chacun.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Du 29 mai au 31 mai prochain, ce sera la 47e édition du Mai du Livre. Bonjour René Trus.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de cette belle manifestation, comme son nom l'indique, qui se déroule au mois de mai, puisque ça s'appelle le Mai du Livre. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous rappeler qu'est-ce que c'est que le Mai du Livre ?
Voilà. Alors, nous sommes partis d'une évidence. Cela fait 4000 ans que les livres sont nés.
4000 ans ?
4000 ans. Et il y a peu de créations humaines qui peuvent avancer une telle longévité. Certes, les supports ont changé. On est passé de l'argile au papyrus, au parchemin, au papier. Et enfin, et pas pour la meilleure des choses, au numérique.
Oui.
Donc, l'objectif de toute civilisation, ça a été de préserver une mémoire collective. Autrement dit, en 40 siècles, l'humanité, on n'a trouvé rien de mieux pour assurer la transmission des savoirs que le livre. Mais aujourd'hui, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, on peut se poser des questions. Et le Mai du Livre, justement, est là pour en poser. On a pensé, depuis 47 ans,
oui,
que le livre était un instrument essentiel, privilégié pour la progression humaine. Et ça, auprès des jeunes publics, pour lesquels nous consacrons une semaine d'atelier, et pour les adultes aussi, puisqu'ils nous sommes fidèles à la conception de la culture populaire.
Hein. René Trus, une question que je me pose, puisque on va voir dans votre programmation, on va parler, oui, de l'intelligence artificielle, et vous avez d'ailleurs, oui, deux invités prestigieux cette année, moi, dans cette, voilà, grande cette émission, c'est Sylvie Vauclair, quand même l'astrophysicienne, et Jean-Pierre, oui, Siméon, poète et romancier, critique et dramaturge. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on parle de littérature et de livres, eh bien, voilà, c'est le Graal, c'est très bien et tout. Et que lorsqu'on parle du numérique, vous l'aviez un peu tout à l'heure, ou d'intelligence artificielle ou d'autres choses, c'est pas bien. Mais en fait, dans la littérature ou dans les livres, c'est un peu comme sur Internet, on trouve de tout. C'est pas parce qu'on écrit sur du papier que ce que l'on marque est bien. On a quand même eu on peut trouver de tout et de l'horreur comme du beau.
Oui, oui.
Derrière, il y a l'homme, quelque part. Derrière, il y a l'homme. Quel que soit le support, il y a l'homme derrière.
Voilà. Alors, je pense qu'il faut bien se garder de tout progrès de critiquer systématiquement. Mais il faut aborder les choses très, très sérieusement aussi.
Oui.
Il y a des dangers. Vous avez parlé fort justement de l'humain. Mais avec l'intelligence artificielle, on se demande où est la place de l'humain. Par exemple, si des étudiants aujourd'hui, au lycée, en faculté,
oui,
au lieu de réfléchir un petit peu, basent tout leur travail sur l'intelligence artificielle, ça va reproduire une idée normalisée. Et il n'y aura pas d'effort à faire, vous voyez ? Alors, que l'intelligence artificielle soit un support intéressant, c'est indéniable, mais en même temps, il ne doit pas remplacer la réflexion humaine.
Vous avez peur qu'aujourd'hui, dès qu'il va falloir réfléchir un peu, vous avez cette peur qu'on relègue ça, on sous-traite la réflexion par des machines, c'est ça, hein ?
Voilà. Vous savez, Jean Guénon, qui était un grand humaniste, disait le véritable progrès de l'homme, c'est son passage à un monde qu'il subit, à un monde qu'il construit. Hein. Et nous, à l'éducation populaire, on est pour cette construction, faire confiance aux gens, faire confiance à leur intelligence, leur sensibilité et leur sens du collectif.
D'accord. Alors du coup, on va parler rapidement du programme, mais oui. L'intelligence artificielle, donc il y aura une conférence, d'ailleurs avec Jean-Pierre Siméon et Sylvie Vauclair, il y aura même une autre conférence sur la science-fiction et la réalité, qui est assez intéressant. L'IA, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, au cœur même de votre mets du livre, pourquoi ? Enfin, vous en avez un petit peu dit quand même deux mots, mais...
Oui, oui. Eh bien, parce qu'il faut quand même s'interroger et quelle part on fait à l'intervention humaine. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons organisé un débat croisé entre Sylvie Vauclair, qu'on connaît beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'elle était l'adjointe de Rive, hein, le grand savant.
Oui.
Christian Grenier, qui est un écrivain de science-fiction, de théâtre aussi, d'essais, de romans, un roman policier, et tous les deux amènent une réflexion de haut niveau, parce que beaucoup de gens sont un peu perdus dans les avancées vertigineuses, et des gens comme Grenier ou Vauclair ont les pieds sur terre, en même temps, ils ont un autre pied dans l'imaginaire. Et justement, on va les interroger sur, d'une part, quelle part d'imagination entre dans la recherche scientifique et quelle est la part de science nécessaire à l'écrivain de science-fiction. Et on va découvrir quand même que l'imaginaire a aussi un pied dans le réel et n'est pas en marge de la vie. Et avec ces deux écrivains, on sera confiant pour aborder tout ça d'une manière saine, simple et chaleureuse.
Alors René Trus, un changement majeur cette année sur votre opération, c'est que vous avez quitté donc le Haras de Tarbes. Cette fois-ci, ce sera l'Almarcadieu qui sera votre...
Un lieu authentiquement populaire, bien sûr, un peu le poumon de la ville. Et nous avons pu, avec davantage de place, inviter d'autres partenaires. Voilà. Alors, il y aura toute la semaine des ateliers pour les enfants, mais il y en a aussi le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi soir, ce sera un récital avec l'ouverture officielle, et c'est un trio qui va interpréter les musiques swingées de Charles Trenet. Et le lendemain matin, il y aura des animations avec deux auteurs pour la jeunesse. Il s'agit de Charlotte Deligneris et Céline Aguiné. Et l'après-midi, donc, ce débat entre Sylvie Vauclair et Christian Grenier. Et puis, à 17h, il y aura Jean-Pierre Siméon, le créateur du Printemps des Poètes, le prix Apollinaire. Je pense que c'est le poète vivant qui est le plus connu aujourd'hui. Et surtout, cet homme lui-même se pose des questions sur l'intelligence artificielle aussi. Mais en même temps, en tant que poète, on va l'interviewer sur son dernier livre à venir. C'est-à-dire que c'est un poète qui s'intéresse à cet avenir que les hommes doivent faire plus juste et plus pacifique quand on pense au moment que nous vivons. Et la Compagnie des Tréteaux la compagnie de théâtre de la Ligue de l'enseignement, le matin à 11h, fera un récital avec un titre qui se passe de commentaire, « La poésie sauvera le monde ». Voilà.
Ouais. Ah oui, je vois. 11h, donc, à l'Almarcadieu. Vous externalisez, voilà. Puisqu'il y a l'Almarcadieu, j'ai vu qu'il y avait aussi la médiathèque Louis Aragon.
Voilà,
il y aura la maison des associations, aussi la MDA à Tarbes.
Voilà. Alors, ça, c'est le lendemain. C'est un spectacle famille. On a insisté. C'est une comédienne qui vient de Bretagne et qui a écrit un spectacle pour un personnage de clown sur le vertige qu'elle a dans le cosmos. Et l'écriture a été aidée par un scientifique, un astrophysicien. Voilà. Et là aussi, il y a ce mélange d'imaginaire et de poésie et de chaleur, quoi. Voilà. C'est un des meilleurs spectacles qu'on ait trouvé au Festival d'Avignon cette année.
D'accord. Et vous avez réussi à le faire venir à Tarbes.
Oui, c'est pas sans problème.
Pour avoir des personnalités comme ça, qui viennent,
oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, 47 ans de métier, 47e édition, est-ce que ça sert un peu à ça aussi de faire venir les pointures que vous faites venir?
Oui, vous savez, il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas un salon du livre. Hein.
Non.
Je vais vous donner l'exemple de, on ne va pas dire qui, un écrivain célèbre qui est venu au Mélu Livre, c'était au Haras, et l'avant-veille, elle était au Salon du Livre de Bordeaux. Voilà.
Donc c'est une dame. Elle,
oui, voilà. Elle a pris Renaudot. Elle nous a dit, voilà, je vous parle franchement, j'ai passé 2 jours au Salon de Bordeaux, il est passé au moins 8000 personnes, j'ai vendu 3 livres.
Oui.
Et je viens chez vous, vous m'interviewez pendant 1h30, et j'ai vendu 24 livres, vous voyez. Ça situe un peu le mets du livre qui est une action la plus directe possible, en donnant la parole aux auteurs, pas simplement 5 minutes, mais une bonne 1h30. Et c'est ce débat qui me paraît intéressant. Et aujourd'hui, on le sent, avec la compagnie des Tréteaux qui a monté plusieurs spectacles, les gens ont besoin de paroles authentiques, généreuses, qui contrebalancent un peu l'angoisse actuelle que nous connaissons.
C'est la Ligue de l'enseignement hein, qui est l'organisateur de cette manifestation, voilà, avec des partenaires. En 2 mots, c'est quoi la Ligue de l'enseignement?
Alors, c'est un mouvement d'éducation populaire, laïque bien sûr, qui est né en 1860.
D'accord.
Voilà. Et qui a précédé les lois scolaires, l'école gratuite laïque obligatoire, avant 1880. Et elle a pensé que, avec les progrès justement du machinisme, il fallait une main d'œuvre qui soit cultivée, qui sache lire, écrire, compter, et surtout qui sache réfléchir pour exercer une citoyenneté qui contrebalance un peu les pouvoirs excessifs et exclusifs. Voilà. On vous remercie beaucoup, monsieur Sandrecaz.
Merci à vous, monsieur René Truss, et puis à très bientôt.
À bientôt.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur le Mets du Livre sur leur site internet. Et bravo à eux, 47 ans que ce festival perdure sur la ville de Tarbes. Bravo, car l'important c'est souvent de ne pas seulement faire quelques opérations, mais de durer. Et c'est ce qu'ils font. Tout de suite, on va retrouver l'actualité grâce aux stagiaires qui sont avec nous ouais, et qui est partenaire de Radio Présence. C'est Sacha Baudet-Pouplier qui, aujourd'hui, nous présente le journal de la mi-journée.
«
Bonjour à tous et à toutes. À la une, une jeune enseigne de Montauban en lice pour un prix national. Le restaurant Ola, créé par Julien et Laura à Montauban en 2023, participe au tout premier Uber Eats Awards. Le concours récompense les établissements les mieux notés sur la plateforme de livraison. 80 restaurants français ont été sélectionnés et les votes du public sont ouverts jusqu'au 23 mai. Ola, spécialisé dans les bowls gourmets et le coffee shop, affiche une note proche de 5 étoiles sur l'application. Les fondateurs espèrent désormais atteindre la finale nationale à Paris face à des enseignes portées par deux grands chefs. À Lourdes, les permanences des élus municipaux reprennent en mairie. Les habitants pourront de nouveau rencontrer directement leurs représentants afin d'échanger sur les dossiers locaux et les problématiques du quotidien. La municipalité souhaite ainsi renforcer la proximité avec les Lourdais après plusieurs mois d'interruption. Dans le Tarn-et-Garonne, une mobilisation importante pour sauver 3000 poules de réformes promises à l'abattoir. Une association organise depuis ce week-end une vaste opération d'adoption. Les particuliers peuvent réserver les animaux afin de leur offrir une seconde vie dans des jardins ou dans des petits élevages familiaux. Selon les bénévoles, le rythme des réservations est inédit et dépasse toutes les précédentes campagnes de sauvetage. Autre information locale, un stade porte désormais le nom de Bob Montolio. La décision a été officialisée ce week-end pour rendre hommage à cette figure du sport local et de la vie associative. Famille, élus et habitants étaient réunis lors de la cérémonie inaugurale, marquée par plusieurs témoignages d'émotion. Culture à présent avec le festival de théâtre de Figeac. Les organisateurs ont dévoilé la programmation de la 26e édition qui se déroulera cet été dans le Lot. Comme chaque année, spectacles en plein air, créations contemporaines et grands textes du répertoire seront proposés dans différents lieux de la ville. Le festival entend encore renforcer son ancrage populaire et territorial avec plusieurs compagnies venues de toute la France. Et puis enfin en sport, le Stade toulousain lourdement battu à La Rochelle hier soir en clôture de la 24e journée de Top 14. Les Rouges et Noirs se sont inclinés 38-10 au Stade Marcel de Flandre. Après la rencontre, l'entraîneur Hugo Mola s'est montré très critique envers la prestation de ses joueurs, estimant que son équipe se tirait une balle dans le pied. Toulouse a aussi dû composer avec les forfaits de dernière minute d'Emmanuel Méafou et David Anuou. Malgré cette défaite, les Toulousains restent bien placés dans la course aux phases finales.
Et un grand merci à Sacha Baudet-Pouplier, donc, de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà, bravo à tous ces étudiants en journalisme qui nous proposent chaque jour l'information dans notre région. Et le retour de l'actualité, vous en avez l'habitude, c'est à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour le grand journal national et international. Pour l'instant, eh bien, nous allons partir, comme nous le faisons chaque lundi, avec Mathias Terrier dans le magazine De Passage à Lourdes. C'est une étudiante qui est venue faire un stage au sanctuaire Notre-Dame-de-l'Eau, particulièrement dans les langues, et qui est l'invité aujourd'hui de Mathias Terrier.
Présence De Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Carla.
Bonjour.
Alors que vous terminez votre stage au sein du service communication, en particulier auprès de la responsable des traductions dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, chez l'Oferal, et que vous êtes en Master 1, vous terminez dans quelques jours, on a eu envie de vous recevoir pour entendre ce qu'une étudiante comme vous, qui a passé 4 semaines en stage au sein du sanctuaire de Lourdes, dans un service extrêmement important, hein, qui est le service de la communication, mais avec toute la dimension internationale, comment vous voyez, après 4 semaines, le sanctuaire de Lourdes. Et donc, vous allez nous partager vos expériences, Carla, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr, oui.
Vous êtes à l'université de Pau.
Oui.
Vous êtes encore toute jeune, 21 ans, je l'ai dit, et vous êtes spécialisée dans deux langues, l'anglais et l'espagnol.
Exactement, oui.
On verra peut-être dans la deuxième partie de cette émission que ce que vous projetiez professionnellement, métier de la traduction, c'est quand même très bousculé par les nouvelles technologies. Et on en reparlera. Mais auparavant, vraiment la question est, quand vous arrivez au sein de ce service, dans un sanctuaire comme Lourdes, vous y arrivez comme croyante ou vous dites, bon, bah, c'est d'abord un stage dont j'ai besoin ?
Alors moi, je suis pas du tout croyante, mais j'ai toujours été super intéressée par toutes les religions. Même sans vraiment prendre partie. Et les lieux, en fait, comme Lyon, ça a toujours été quelque chose qui m'attire. Et avoir l'opportunité de venir ici, c'était vraiment, je me suis dit, il faut que je vienne. En plus, c'est pas loin. Et ça m'attirait vraiment, en fait, par tout le côté mystique. Et c'est vrai que quand on y est, en fait, on réalise qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage d'ici. Quelque chose de vraiment spécial, en fait. Même quand on n'est pas croyant, on le voit. On le voit qu'il y a comme une aura autour du sanctuaire et que tous les gens qui y viennent apportent quelque chose, en fait.
Ce qui nous intéresse dans votre posture, si je puis me permettre, c'est que vous arrivez en disant je ne suis pas croyante, mais vous n'avez aucune idée reçue sur le lieu. Vous n'avez pas de compte à régler avec la religion.
Non, pas du tout.
Vous venez et vous avez vu quoi alors, Carla? Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez rencontré des personnes, j'imagine, oui. Des pèlerins?
Ce que j'ai vu, en fait, ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est voir tous les gens qui, eux, y croient, qui ont la foi, et voir vraiment l'émerveillement dans leurs yeux, en fait, et voir que eux, c'est, pour eux, c'est quelque chose de spécial. Et il y en a qui viennent de l'autre bout du monde et voir que ça leur tient énormément à cœur d'être ici. Et on se rend compte, en fait, que ce lieu est tellement spécial pour plein de gens. On se dit, c'est vrai que pour nous aussi, en fait, c'est spécial. C'est très, très beau à voir, en fait, surtout les gens qui viennent ici. Et qui, c'est vraiment l'expérience d'une vie, quoi. Mmh. Voilà.
Et donc, vous, on va voir que vous avez vécu des belles rencontres, des rencontres qui vont peut-être même garder une place dans votre mémoire. Mais qu'est-ce que vous découvrez du message de Lourdes, de Bernadette, je ne sais pas, de la grotte, des lieux? Qu'est-ce que vous en diriez après ces 4 semaines?
Alors, quand je suis arrivée, je ne connaissais vraiment pas énormément l'histoire de Bernadette. Et en fait, j'ai vraiment tout appris en venant ici, en faisant toutes les activités. Et c'est vraiment une histoire vraiment belle, vraiment particulière et unique. Et c'est très, très beau, en fait, comme message que, en fait... c'est une personne, c'était la personne du village que personne n'aimait. Elle était malade et c'est elle qui a été choisie, en fait, par la Vierge dans l'histoire, en fait. C'est ça qui est beau. Et dans un endroit qui était sale de base, où personne n'y allait. Et je trouve ça magnifique, en fait. L'histoire est vraiment belle. Et le message de Lourdes, c'est qu'en fait, je pense que n'importe qui peut être choisi et n'importe qui peut être aimé. Voilà.
Et tout le monde peut-être
oui.
Aimé.
Oui, c'est
ouais.
Ça.
Ouais.
Ouais.
Et ça, c'est ce que vous découvrez à travers. La vie de Bernadette.
Oui.
Sur les lieux, le sanctuaire de Lourdes, en fait, c'est un ensemble assez vaste. Il y a des basiliques, des chapelles, oui. des églises. Et puis la grotte.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire après cette expérience que vous venez de vivre? Qu'est-ce que vous en diriez?
Alors moi, premièrement, je suis allée voir en premier la grotte, je pense, avant de voir la basilique souterraine. Et en fait, ce qui m'a le plus... Ce qui m'a le plus étonnée, c'était la basilique souterraine, la grandeur de cette basilique, et c'était vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça ici.
Mais sur la grotte, vous étiez un peu déçue, en vous disant, oh, finalement, ce n'est pas une grotte, c'est un abri sous roche, c'est pas très grand.
C'est pas ce qui m'a marqué le plus, mais c'est vrai que la grotte, il y a quelque chose quand même de spécial, de particulier. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage, mais ce n'est pas ce qui m'a marqué le plus à moi, personnellement. Ouais.
Vous, ce qui vous touche assez vite, c'est la grandeur, un peuple en marche, quoi, la foi collective.
Oui, oui, c'est ouais. Ça en fait. Tout le monde qu'il y a, et puis rentrer dans les basiliques, voir autant de monde, autant de choses, les muraux, tout ça. C'est ouais. Vraiment ce qui me touche le plus, je pense, ouais.
Oui, les vitraux, et puis également les gémeaux.
Oui.
Peut-être, hein, toutes ces représentations. Après, il y a aussi toute l'expérience que vous vivez un peu professionnellement. J'imagine que auprès de votre tutrice, Cello Ferral, vous avez aussi dû travailler, apprendre,
oui.
Découvrir, être dans un milieu professionnel hein, qui a aussi des comptes à rendre par rapport oui. À des missions, des objectifs. Parfois.
Bien sûr, oui. Et bien, c'est vrai qu'en venant ici, du coup, j'avais aucun vocabulaire religieux, comme je fais de la traduction. Et j'ai appris, en fait, ici, tout ce vocabulaire, même le vocabulaire propre à Lourdes, comme les feutiers, ceux qui s'occupent des cierges. Je ne savais pas tout ça. Et c'est vrai que, pour les traductions, j'ai dû beaucoup apprendre tout ce qui se passe au sanctuaire pour les rendre.
Même le vocabulaire liturgique, parfois.
Oui, oui, ouais.
Vocabulaire de la messe, des sacrements.
Exactement. Un peu. Pas énormément, parce que je ne dois pas traduire des messes. Mais oui.
Oui,
exactement. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile pour rendre des bonnes traductions. Mais c'est super intéressant, au final, en fait. De rendre des traductions sur les choses qu'on ne sait pas du tout et on apprend au fur et à mesure et être complètement dans cette immersion en fait. Ouais.
Donc on pourrait dire que vous avez été assez émerveillée par le lieu.
Oui, Complètement. En fait, je sais qu'en venant, je m'attendais à quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je savais que j'allais être agréablement surprise. Et c'était le cas. Voilà.
Parlons des rencontres que vous avez vécues. Durant votre temps de stage, il y avait des pèlerinages venant de plusieurs pays européens, j'imagine.
Oui. J'ai rencontré des pèlerins qui venaient de Santander en Espagne. Je suis allée voir pendant qu'ils assistaient à une messe qui se passait à la grotte. Et j'ai rencontré plusieurs profils avant qu'on me dise « Allez parler à cet homme qui s'appelait Raphaël ». Et cet homme, en fait, vient depuis 31 ans au sanctuaire parce qu'il est éducateur de prison et vient avec des détenus à lui. Et en fait, depuis 31 ans, il amène ses détenus pour qu'ils puissent aider les personnes dans le besoin qui viennent assister et faire le pèlerinage ici. Et c'est très, très beau. Et ils ont même eu l'opportunité en 2019 de rencontrer le pape quand c'était les 25 ans de leur venue à Lourdes. Ils ont rencontré le pape à Rome, du coup l'ancien pape François. Voilà, et c'est complètement par hasard que j'ai rencontré cette personne. Et c'est assez fou de se dire qu'il y a vraiment des choses incroyables qui se passent à Lourdes, des gens incroyables, et on ne s'en doute pas en fait. C'était vraiment par hasard. Et voilà.
Et l'incroyable, il est toujours dans l'humain.
Oui.
C'est-à-dire des gens qui se mettent en marche.
Oui.
Gratuitement.
C'est
bénévolement.
Ça. Oui.
Et ça vous a frappé.
Ouais. C'est en fait tout comment ça tient à cœur aux gens en fait. Et tous les gens qui font ça, ouais, bénévolement, sans rien attendre en retour, juste pour les autres aussi. Ceux qui sont dans les marches de toujours aider les autres.
Vous avez pu donc faire des rencontres avec des pèlerins parce que bon, le service communication vous a envoyé sur le terrain, vous a dit découvre.
Oui, exactement. Rencontre. Oui. Oui. J'ai pris mon petit carnet et mon petit stylo et je suis allée voir les gens. Du coup, je leur ai parlé en espagnol et en anglais. Je suis allée voir aussi HCPT, le pèlerinage anglais, qui fêtait ses 70 ans cette année, en plus. Et j'ai rencontré la grande directrice, du coup, Tricia McFallon, et qui était super gentille, qui m'expliquait qu'elle... ça faisait que 18 mois qu'elle était grande chef de HCPT, mais qu'elle avait un peu reçu ce métier, en fait, elle savait que c'était sa vocation, elle l'a senti en l'intérieur d'elle et elle est super contente à chaque fois de venir à Lourdes. Elle dit que c'est vraiment un lieu... Tous les gens à qui j'ai parlé ont dit que c'était un lieu qui était super accueillant, que les gens étaient très bienveillants, très hospitaliers.
HCPT, c'est un pèlerinage où il y a des adolescents ou des personnes en situation de handicap mental.
Exactement, oui. Il y a un peu tous les profils, oui.
Oui. Et donc là, ça vous a permis de rencontrer une autre réalité que celle de Santander, par exemple, dont vous nous parliez.
C'est différent, oui. Après, j'ai pas eu l'opportunité de parler à des enfants ou pendant HCPT, j'ai que parlé aux bénévoles ou aux
représentants.
Ouais. Mais oui.
Vous avez pu assister à des liturgies, des messes, des moments de rassemblement?
Oui. Alors, pas entièrement, mais j'ai pu passer devant la messe internationale qui se passe à la basilique souterraine. Et c'est vrai que ce jour-là, il y avait, je pense, c'était presque complet, donc c'est à peu près 20 000 personnes. Et c'est incroyable de voir autant de monde rassemblé, qui regarde une messe. C'est très, très beau à voir. C'est assez particulier. C'est pas quelque chose que je pensais assister un jour.
Oui.
C'est très, très beau à voir. Ouais, autant de gens rassemblés pour une chose.
Vous n'aviez jamais assisté à une messe?
Non, je pense pas, non. Non. Comme je suis pas croyante, non. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est assez beau à voir, oui.
Si vous le voulez bien, Carla, nous allons un peu nous arrêter dans cette émission quelques instants. Je rappelle que vous êtes en master de langue, en particulier pour la langue anglaise et la langue espagnole, et qu'on avait envie d'entendre votre témoignage à l'issue de ce stage que vous vivez au sein du service communication du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et en particulier auprès de notre responsable des traductions, qui s'appelle Chelo Ferral, et qui est d'ailleurs, favorise beaucoup l'organisation de cette émission que nous réalisons et qu'on remercie au passage. Nous marquons cette pause et juste après, nous continuons ce dialogue avec vous. À tout de suite.
Une lueur s'illumine quand la belle ignorance n'est plus la nuit des sommes, mais quelle est l'innocence, celle qui n'oublie personne.
Aujourd'hui, notre invitée est Carla. Carla Vergne, vous êtes stagiaire au sein du service communication du Sanctuaire de Lourdes. Présentée comme ça, on se dit que demander à une stagiaire qui vient au sein de ce service communication du Sanctuaire de Lourdes. Vous êtes en master de langue.
Oui.
Déjà, il y a une dimension internationale. Lourdes se rapproche de vous, d'une certaine façon. Vous nous dites, dans la première partie de cette émission, je ne suis pas croyante. Vous dites, que vient faire Carla dans ce service? Par le truchement d'une amie, vous avez réussi à trouver ce stage.
Exactement.
Et vous nous disiez que vous arriviez un peu le cœur libre, l'esprit libre, sans préjugés. Vous êtes arrivée dans un lieu très marqué quand même.
Oui.
Vous disiez, je vais découvrir ce que je vais découvrir. Peu importe.
Oui. En fait, je suis très curieuse, moi, je suis très ouverte, je sais que je vais voir des choses qui sont peut-être un peu abnormales, enfin, des choses qu'on ne voit pas tous les jours, en fait.
Oui, oui.
Mais c'est vraiment avec
un peu mystique, ou en tout cas spirituel.
Oui, qui sont des choses qui ne m'attirent pas forcément de base, puisque je ne suis pas croyante, mais comme moi, j'ai envie de découvrir, en fait, ça m'intéresse de voir ça, des choses que je ne connais pas.
Vous avez trouvé le sanctuaire compliqué à comprendre, le message compliqué à comprendre, oui, non?
Non, pas du tout. Franchement, c'est assez... En fait, quand on arrive, on voit que c'est très ouvert et que le message, c'est vraiment que tout le monde est spécial, en fait, tout le monde peut venir, tout le monde est spécial. Et
tout le monde est attendu.
Oui, tout le monde est attendu, tout le monde est le bienvenu, en fait. C'est très, très ouvert. C'est ça qui est beau, je trouve, ici. Que... Ouais.
Vous êtes à l'université de Pau.
Oui.
Vous avez dû, j'imagine, échanger avant de partir en stage avec vos amis, disant où est-ce que tu vas en stage, et toi, et moi. Vous, vous avez dit au sanctuaire de Lourdes.
Oui.
Ça réagit comment ?
Il y en a qui étaient assez plutôt contents pour moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu atypique. Les autres, ils le font dans des mairies ou avec des traducteurs indépendants. Moi, je le fais dans un sanctuaire, c'est quelque chose de religieux. Mais c'était pas choquant non plus.
Oui.
Ouais, voilà. C'était particulier par rapport à ce que les autres avaient choisi, mais c'était pas non plus extrêmement choquant.
Vous allez devoir faire un rapport ou une sorte de compte-rendu ?
Oui. Oui, un rapport et une soutenance orale, oui.
Vous êtes dans un univers, les langues, qui est bousculé par toute la nouvelle technologie, en particulier tous ces traducteurs sur nos smartphones et autres outils qui nous permettent en temps réel de traduire. Ça vous bouscule vous-même dans votre projet professionnel ? Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ?
Exactement.
Pourtant, c'est votre génération. Vous êtes né, vous, avec le monde digital.
Oui. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand j'ai vraiment commencé mes études en première année du coup de licence, on commençait déjà à en parler, à nous dire il va falloir regarder autre chose. En fait, tout le monde nous disait ne partez pas dans les langues, ne faites pas de traduction, ça sert à rien. Parce que dans quelques années, ce sera, vous ne pourrez plus. Et on s'approche de plus en plus de la réalité. Et quand je parle avec des vrais traducteurs, ils nous disent qu'il faut déjà être bien serré sur le marché et que c'est bientôt, ça disparaîtra bientôt. Donc c'est assez effrayant. Mais je pense que même si la traduction disparaît, les langues, elles ne le feront pas. Et il y aura toujours quelque chose à faire dans la discussion avec quelqu'un en langue étrangère, en fait. Donc on peut trouver d'autres chemins, je pense. Les traducteurs peuvent se réorienter et trouver d'autres chemins pour quand même continuer à pratiquer les langues.
Et vous-même, vous utilisez ces outils ?
Pas réellement, non.
Très puissants ?
Non, moi je préfère faire de moi-même. J'ai pas l'habitude de les utiliser, non. Je préfère faire mes traductions moi-même et... Parce qu'il y a toujours, il y aura toujours plus ce côté humain, en fait, quand c'est quelqu'un qui le fait, qu'il n'y a pas dans l'IA. On le voit, en fait, quand on compare des textes faits avec IA, on le voit qu'il n'y a pas ce côté humain, c'est plus ce qui est attendu, en fait. Plus formel et...
Oui, voilà. C'est un côté très mécanique.
Oui.
Même si ces intelligences artificielles s'améliorent beaucoup.
Oui.
Dans leur technicité, il faut le reconnaître.
Mais un robot, ça ne serait jamais...
Ça inquiète toute votre promo, ça inquiète tous vos métiers.
Franchement,
vous sentez un peu d'angoisse autour de vous sur ces sujets.
Franchement, oui, même les professeurs, tout le monde est un peu inquiet, en fait, personne ne sait où ça va vraiment.
Donc vous, Carla, vous vous dites quoi ? Parce que là, vous êtes en master, c'est déjà pas rien, vous avez fait un bout de chemin d'études important, enfin, oui, 4 années, c'est ça ?
Oui.
Vous avez 21 ans, tout l'avenir est devant vous. Et vous vous dites quoi ? Qu'à ce stade, il faudrait se réorienter ? Ou bien vous dites non, il faut insister, peut-être qu'il y a un chemin à se faire dans tout ça quand même ?
Alors, je pense qu'on peut insister, oui, et trouver vraiment une opportunité, en trouvant un hasard, ou voilà, on peut trouver, je pense.
Vous avez d'autres compétences, vous, que les langues ? Parce que c'est déjà beaucoup, hein, de parler le français, l'anglais, l'espagnol, et d'être couramment sur ces trois langues. Mais vous avez une autre compétence ?
Oui, alors justement, à la fac, en licence, ils essayaient de nous réorienter pour qu'on ait d'autres compétences. Et du coup, j'ai beaucoup pratiqué l'informatique, tout ce qui est digital, création de sites, création de maquettes de sites. Et donc, en informatique, j'ai assez de compétences, ouais, pour pouvoir ajouter ça aux langues, en fait.
Oui, et donc ça pourrait être ça, l'avenir.
Oui.
C'est d'allier cette double compétence.
Oui. Parce que l'informatique, c'est le futur aussi, du coup, puisqu'il y a plus en plus de ça, plus en plus d'IA. Et tout ce qui est informatique est de plus en plus demandé, en fait. Donc, tout ce qui est digital, numérique, tout ça, c'est pour ça.
Pour en venir à ces savoir-faire que vous avez de capter, enfin de traduire, d'être dans les langues, vous-même, vous vous êtes immergé dans les pays qui sont concernés par l'anglais, l'espagnol, vous êtes amené à voyager... À bouger, à vraiment confronter ce que vous avez appris à la réalité des pays ?
Oui, alors j'ai pas fait réellement d'immersion de plusieurs mois ou d'un semestre, voilà, mais j'aime énormément partir en voyage à Londres. C'est vraiment une ville que j'apprécie et c'est incroyable de rencontrer les gens, du coup, parler en anglais pendant une ou deux semaines et de vraiment s'immerger dans le
monde. Et en espagnol, vous avez réussi à trouver aussi ?
En espagnol, un peu moins, j'en ai moins l'occasion, Bah, pourtant, c'est à côté, oui.
La frontière est toute proche.
Mais si, si, quand même, oui. Pour les vacances, oui, quelques jours, j'arrive à le faire, oui. Mais je suis plus côté Londres, moi.
Pour les quelques minutes qui nous restent, revenons à Lourdes, si vous le voulez bien. Vous nous avez dit, dans la première partie de cette émission, j'ai fait des rencontres, j'ai vu, par exemple, Raphaël de Santander qui amène des repris de justice, qui sont autorisés à sortir et puis qui viennent vivre un temps à Lourdes. Vous avez vu un pèlerinage qui s'appelle HCPT. Mm. Vous les avez rencontrés, ça c'est plus anglo-saxon. Au fond, dans votre rapport, qu'est-ce que vous pourriez rapporter de ce que vous avez vécu, juste des rencontres factuelles ou bien vous allez y mettre une touche spirituelle qui imprègne Lourdes quand même?
Mais chaque rencontre, c'était unique en fait, parce que chaque personne a son histoire à raconter et en fait tous m'ont dit, ça fait des années que je viens à Lourdes. Et j'essaye de venir le plus souvent possible parce que Lourdes, c'est spécial pour moi, c'est un lieu spécial. Et ça se voit qu'ils sont vraiment attachés à cet endroit et qu'ils viennent parce qu'ils voient eux-mêmes qu'il y a quelque chose de magique à Lourdes. Mmh. Et qu'ils essayent de revenir dès qu'ils peuvent, en fait. Voilà.
Et donc, quand vous allez revenir chez vous, enfin, ou quand vous allez devoir rapporter tout ça à votre propre famille, votre entourage, comment vous allez raconter Lourdes? Par quoi vous allez commencer?
Il y avait beaucoup de monde, mais vraiment que moi je vois ça comme un lieu magique en fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand je le raconte, je pense qu'ils voient que ça me plaît. Et que c'est vraiment. Franchement, j'incite les gens à venir voir d'eux-mêmes en fait. Mmh. De venir voir.
Pour vous, magique, dans votre vocabulaire, ça veut dire que c'est un lieu qui est beau, qui vous interpelle, qui vous émerveille.
C'est comme ça
que je dois le traduire,
en fait.
Oui, exactement. Si je peux me permettre.
Oui. C'est vraiment, on le voit que c'est unique. Et quand on le voit, on voit que c'est particulier, qu'il y a quelque chose d'en plus, en fait. C'est pas juste un endroit où il y a des basiliques, des chapelles. C'est qu'il y a une touche de quelque chose qui est unique, qui émerveille. Et quand on le voit de nos propres yeux, on peut le sentir.
Et la religion catholique, au fond, ce que vous en gardez, là, à ce stade, à la fin du stage, c'est ce que vous aurez vu à Lourdes.
Oui.
Puisque vous ne l'avez pas côtoyé
non,
par ailleurs.
Non, pas réellement, non, oui. C'est ce que je vois à Lourdes. Après, je pense que chaque endroit un peu a ses propres particularités.
Oui.
Mais là, j'aurais ce souvenir de Lourdes et de ce que les gens viennent voir à Lourdes et pratiquer.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Carla? À ce stade, vous allez quitter Lourdes. Enfin, quitter Lourdes, c'est la fin de votre stage.
Oui.
Vous repartez chez vous.
Exactement.
Les études, vous avez des examens bientôt?
Je les ai déjà finis, je les ai déjà passés.
Tout est fait.
Oui. Tout est fini. Oui.
Tout est bon?
Oui. Tout est bon, il me restait juste le stage. Et voilà.
Et donc la suite, c'est quoi? C'est travailler l'été?
Oui, exactement. Et puis attendre la rentrée pour reprendre les études. Et voilà.
Pour être en master 2.
Exactement.
Merci beaucoup pour ce témoignage.
Oui.
Ce que j'oserais appeler un rapport d'étonnement.
Exactement, oui.
Vous êtes venu ici sans préjugés et sans prérequis. Et vous nous racontez ce que vous avez vécu. Je rappelle que vous êtes en master de langue, hein, en anglais et en espagnol, à l'université de Pau, et que vous étiez en stage au sein du service communication du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Bon vent à vous, Carla, bon
courage.
Merci
beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com, et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV reçoit le chef de l'église arménienne au Liban. À Rome 1er, l'occasion pour le Saint-Père d'adresser